Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 2. Le soleil du matin ruisselait à travers les fentes de la toile quand l'homme s'éveilla. Un éclat chaud baignait l'atmosphère de la tente, qu'une grosse mouche bleue, dans sa ronde solitaire, faisait vibrer de son bourdonnement musical. Nul autre bruit que ce vrombissement n'était perceptible. L'homme jeta les yeux autour de lui, regarda les bancs, la table dressée sur ses tréteaux, le panier d'outils, le poêle où la marmite avait bouilli, les bols vides, les grains de blé semés sur la table, les bouchons jetés sur le plancher gras. Parmi les détritus épars, il distingua un petit objet brillant et le ramassa, c'était l'anneau de sa femme. Une confuse vision des événements de la soirée lui revint à l'esprit. Il lui fit porter la main à sa poche intérieure. Un froissement lui révéla la présence des billets de banque qu'il y avait négligemment jetés. Cette vérification suffit à confirmer ses souvenirs imprécis et à lui faire sentir que ses souvenirs n'étaient point des rêves. Il resta quelque temps immobile, regardant à ses pieds. « Il faut me tirer au plus vite de ce pétrin-là, » conclut-il enfin, d'un ton résolu, avec l'accent d'un homme qui ne pourrait fixer ses pensées sans les énoncer à haute voix. « Elle est partie, c'est certain, avec ce marin qui l'a acheté, et avec la petite Elizabeth Jane. Nous sommes arrivés ici, j'ai pris de la fromentée, avec du rhum, et j'ai vendu ma femme. Oui, c'est bien ce qui s'est passé, et moi je me retrouve ici. Maintenant que faire? Suis-je en état de bouger? Je me le demande. » Il se remit sur ses pieds et se trouva, sans son panier, à peu près capable de marcher. Puis il essaya de prendre ses outils sur son épaule et vit qu'il pouvait les porter. Il souleva alors la porte de toile et se trouva en plein air. Du seuil de la tente, l'homme jetait sur les alentours un regard de curiosité morose. La fraîcheur stimulante du matin de septembre le fouettait. Fort là, la veille au soir, en arrivant à Weydon avec sa famille, il n'avait guère regardé autour de lui. Et tout lui paraissait nouveau maintenant. Le champ de foire s'étendait sur une colline pelée, bordée d'un côté par une pépinière. On y accédait par une route tortueuse, venue d'un village blotti au pied du plateau, et qui donnait son nom à la colline et à la foire annuelle. La dune se perdait en bas dans des vallées, se continuait en haut par d'autres plateaux semés de tumulus, et bordés de forts préhistoriques en ruines. Le paysage se déployait sous les rayons du soleil levant, qui n'avait pas encore séché les grosses gouttes de rosée sur les brins d'herbe. Les ombres des fourgons rouges et jaunes se projetaient très loin sur le sol, et les jantes des rouilles dessinaient des orbites allongées de comètes. Gypsies et forains, restés sur le champ de foire, se plaudissaient dans leurs tentes et leurs charrettes ou s'enroulaient dans des couvertures de chevaux. Ils restaient immobiles et silencieux, comme des morts, et un ronflement isolé révélait seul de temps en temps leur présence. Mais si les sept dormants possédaient un chien, il y avait là aussi de ces chiens de race mystérieuse, autant chat que chien, et renard autant que chat, propres aux tribus nomades. Un roquet se dressa sous une charrette, aboya par principe, et se recoucha aussitôt. Il fut le seul témoin du départ du botteleur quittant le champ de foire de Weydon. Ce départ furtif convenait à sa morne rêverie. Il marchait tout droit, sans voir les champignons des talus ou les bergeronnettes qui volaient dans les haies avec des brins de paille au bec, sans entendre les clochettes des moutons qui avaient eu la bonne fortune d'échapper à la foire. Après un bon mille de route, l'homme posa son panier à ses pieds pour s'adosser contre une barrière à l'embouchure d'un sentier. Il voulait réfléchir à quelques questions épineuses. « Ai-je dit mon nom hier soir ou ne l'ai-je pas dit ?» se demandait-il. Il finit par conclure à la négative. La surprise indignée que sa femme eût pu le prendre au mot se trahissait dans son attitude, se lisait sur son visage, et aussi dans le mâchonnement rageur des brins de paille qu'il tirait de la haie. Il admettait qu'elle eût été poussée à agir ainsi, et qu'elle pût même, jusqu'à un certain point, se croire liée par la transaction dont elle était l'objet. De cela, il était presque sûr, sachant la jeune femme aussi dépourvue de légèreté de caractère que de subtilité d'intelligence. Peut-être cachait-elle aussi sous son habituelle placidité assez d'indifférence ou de ressentiment pour étouffer un doute momentané. Une fois déjà dans une crise d'ivresse, il lui avait dit son intention de se débarrasser d'elle, et elle avait répliqué, avec un accent de résignation fataliste, qu'il ne proférerait pas plusieurs fois une telle menace sans l'avoir réalisée. « Pourtant, elle sait bien que je n'ai pas ma raison quand je dis cela, s'indigna-t-il. Allons, il faut chercher jusqu'à ce que je les trouve. Moi, j'étais partie, mais elle ne l'était pas, elle, cette Suzanne. Cela lui ressemble bien à une simplicité aussi stupide. » « Soumise. Cette soumission-là m'a fait plus de mal que le plus sale caractère. » Un peu calmé, il revint à son idée première. Il fallait rechercher la femme et la petite Elizabeth Jane et s'accommoder au mieux de sa honte. Il en était la seule cause, en somme, et n'avait qu'à en pâtir. Mais il résolut de faire d'abord un serment solennel, et tel qu'il n'en avait fait encore de sa vie. Il y avait du fétichisme dans les croyances de cet homme, et il voulait trouver la scène et le décor convenables pour donner plus de poids à son engagement. Reprenant son panier sur l'épaule, il se remit en route. Il fouilla des yeux les alentours et vit bientôt, à 3 ou 4 milles devant lui, les toits d'un village et une tour d'église. C'est de ce côté qu'il se dirigea tout droit. Le village était silencieux, à cette heure immobile de la vie des campagnes, placée entre le départ au champ des travailleurs et le réveil de leurs femmes et de leurs filles, bientôt levées pour préparer le déjeuner. Aussi le botteleur put-il, sans être vu, gagner l'église dont il poussa la porte, fermée au loquet seulement. Il posa son panier près des fonts baptismaux, traversa la nef jusqu'à la grille du chœur, qu'il franchit pour avancer jusqu'à la sainte table. Là, conscient de l'étrangeté de la situation, il hésita une seconde, puis il s'agenouilla sur les degrés de l'autel, appuyant sa tête sur la Bible à fermoir de fer placée sur la table de communion, et prononça à voix haute. « Moi, Michel Anchard, ce matin du 16 septembre, je fais ici serment, en ce lieu solennel, d'éviter toute liqueur forte pendant 20 années à venir, une année pour chacune de celles que j'ai vécues. Cela, je le jure sur le livre posé devant moi, me fasse Dieu muet, aveugle et paralytique, si je trahis mon serment. » Puis il baisa la grosse Bible et se leva, allégé par ce premier pas dans une voie nouvelle. Il se trouva dehors, immobile un moment sous le porche de l'église. Le matin s'avançait. De la cheminée d'une chaumière voisine, une fumée de bois monta doucement. Il comprit que la ménagère venait d'allumer son feu et alla frapper à sa porte. La paysanne accepta, moyennant une somme modique, de lui donner à déjeuner. Restauré, il se remit en route, à la recherche de sa femme et de son enfant. Mais bien vite, il réalisa toute la difficulté de l'entreprise. Il cherchait et s'enquérait, jour après jour, parcourant le pays en tous sens, sans trouver trace des personnages qu'il décrivait et qu'on ne paraissait avoir vu nulle part depuis le soir de la foire. Pour aggraver ses difficultés, il ne put acquérir la moindre notion sur le nom du marin. Se trouvant à court d'argent, il se décida, après quelque hésitation, à user de l'argent sacrilège pour étendre le champ de ses recherches. Mais elles n'en restèrent pas moins vaines. Il faut dire qu'une certaine pudeur à dévoiler son rôle dans l'affaire empêchait Michel Anchard de poursuivre à corps et à cri des investigations qui auraient demandé une large publicité pour être effective. Sans doute est-ce la raison même qui l'empêcha de trouver une piste, quoiqu'il eût fait pour cela tous les efforts possibles, sans expliquer pourtant les circonstances dans lesquelles il avait perdu sa femme et son enfant. Les semaines, les mois passaient. Il cherchait toujours, subvenant à ses besoins par quelques menus travaux. Il arriva dans un port de mer où il apprit que des personnes répondant confusément à sa description avaient émigré quelque temps auparavant. Il décida alors de renoncer à ses recherches et d'aller s'installer dans un endroit qu'il avait en vue depuis un certain temps. Il partit le lendemain vers le sud-ouest, ne s'arrêtant que la nuit pour dormir, et arriva bientôt à Casterbridge, petite ville située dans un coin éloigné du Wessex.